vous invite à lire, à ouvrir votre Bible dans l'Épître de Paul aux Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 10. 1 Corinthiens chapitre 10. Et nous allons lire à partir du verset 1. Du verset 1 jusqu'au verset 22. 1 Corinthiens chapitre 10 à partir du verset 1. Frère, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés à Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Or, ces choses leur sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Ne devenez point idolâtres, comme quelques-uns d'entre eux, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Ne nous livrons point à la débauche, comme quelques-uns d'entre eux s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. Ne tentons point le Seigneur, comme le tentèrent quelques-uns d'entre eux, qui périrent par les serpents. Ne murmurez point, comme murmurèrent quelques-uns d'entre eux, qui périrent par l'exterminateur. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Je parle comme à des hommes intelligents. Jugez vous-même ce que je dis. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ, le pain que nous rompons? N'est-il pas la communion au corps de Christ? Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. Voyez les Israélites selon la chair. Ceux qui mangent les victimes ne sont-ils pas en communion avec l'autel? Que dis-je donc? Que la viande sacrifiée aux idoles est quelque chose? Ou qu'une idole est quelque chose? Nullement. Je dis que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Voulons-nous provoquer la jalousie du Seigneur? Sommes-nous plus forts que lui? Jusqu'ici notre lecture. Prions. Seigneur, nous te demandons que tu nous éclaires par ton Esprit Saint, que tu nous donnes l'intelligence de saisir et de comprendre ta parole, que tu me donnes la sagesse de pouvoir l'expliquer selon ce qui est écrit. Nous voulons que tu sois glorifié à travers ce qui sera dit et que tu sois glorifié à travers la vie qui sera conséquente à l'obéissance de ta parole. Je te prie que tu agisses en nous par ton esprit. Amen. Bien, la dernière fois, le mois dernier, je crois que nous avons considéré un aspect de la scène qui était l'aspect, on pourrait dire, du mémorial, le fait que nous devions nous souvenir, d'après le passage de 1 Corinthiens 11. Et ce matin, j'aimerais que l'on focalise notre pensée sur un autre aspect que nous trouvons dans le passage que nous avons lu. Alors, j'ai pris le temps de lire le passage pour qu'on puisse le situer dans son contexte immédiat. Mais si j'avais voulu vraiment le situer dans son contexte, j'aurais dû commencer depuis le chapitre 8, hein, où l'apôtre Paul introduit la question de la consommation de viande sacrifiée aux idoles. Okay. Et donc la raison d'être de ce texte que nous avons lu n'est pas de montrer ce qu'est la table du Seigneur dans un premier, je veux dire en premier lieu, même s'il fournit une signification de la Sainte Cène. Et nous rappelons que cette lettre aux Corinthiens est une lettre extrêmement corrective où l'apôtre Paul redresse, corrige incessamment beaucoup de travers qu'il y avait dans cette église de Corinthe. Et donc l'objectif de la lettre est correctif, mais en faisant cela, l'apôtre Paul, par l'Esprit de Dieu, par l'intermédiaire de Paul, eh bien, enseigne des vérités doctrinales précieuses et profondes. L'église de Corinthe subissait bien sûr la pression de la culture dans laquelle elle vivait, comme nous subissons la pression de la culture dans laquelle nous vivons. Notre culture a bien sûr rejeté Dieu et se tourne vers le matérialisme, le consumérisme, et nous sommes peut-être sous cette même pression, sous cette même tentation. À l'époque de l'apôtre Paul, ou en tout cas de l'église de Corinthe, probablement, il y avait de la pression culturelle, pas du même genre, mais c'était celle du polythéisme, hein, et de cette idolâtrie qui existait. Il y avait beaucoup de temples, et ça faisait partie de la culture que d'aller dans des temples, sacrifier, manger, etc., et offrir à des sacrifices à des idoles. Et donc parmi la pression que pouvaient ressentir, on pourrait dire, les chrétiens de Corinthe, il existait celle de participer et de faire partie, hein, un petit peu de la culture, les fêtes, la consommation de viande sacrifiée aux idoles, que ce soit au marché, ou que ce soit invité dans un foyer, ou que ce soit invité à participer dans un temple. Et si vous lisez, si vous avez le temps, relisez chez vous à partir du chapitre 8, vous allez voir que c'est comme cela que la question est introduite. Et donc, c'était la pression qu'il subissait. Et donc, il y avait pour eux la question qui se posait, en tout cas, certains estimaient qu'ils pouvaient participer, manger de la viande sacrifiée aux idoles, et l'apôtre Paul dit d'autres qui étaient plus faibles, eh bien, pensaient que c'était pas correct de le faire. Et puis ceux qui avaient la liberté disaient, moi, je peux le faire parce qu'en Jésus-Christ, on est libre, les idoles ne sont rien. Et puis il y avait les autres qui peut-être venaient de ce milieu-là, eh bien, avaient beaucoup plus de réticence. Et l'apôtre Paul va prendre 3 chapitres, 8, 9, 10, pour exposer la question de l'usage de notre liberté. Ça veut dire que c'est quand même une chose qui est importante. 3 chapitres pour expliquer à partir du cas de conscience de la consommation de viande sacrifiée aux idoles. Je ne veux pas qu'on peut le transférer à beaucoup de choses dans notre société, dans notre vie. Quand le chrétien doit exercer sa liberté, il doit, comme l'apôtre Paul le dit au verset 15, jugez-en vous-même. Je parle à des hommes intelligents. Il doit exercer son intelligence pour savoir comment vivre la liberté qu'il a en Jésus-Christ. L'apôtre Paul souligne clairement combien il est important d'être attentif à l'autre, hein, quand il parle de ce domaine-là. Donc le chapitre 10, la question qui se pose, donc ici, qu'il soulève ici, est celle, voilà, de la participation donc à des banquets festifs en l'honneur des idoles. Et certainement, comme je l'ai dit, hein, il avait affaire à des personnes qui disaient, maman, on sait que les idoles ne sont rien, rappelez-vous, hein, c'est permis, tout est permis, d'accord, disait-il. Après tout, ce qui compte, c'est d'être au Seigneur, c'est d'être chrétien, d'avoir été baptisé, de participer à la Sainte Cène, je fais ces choses, qu'est-ce qui peut m'arriver d'autre? Donc Paul va corriger les Corinthiens, on va dire selon deux axes ici. Premièrement, il rappelle l'exemple du peuple d'Israël que nous avons lu dans les versets 1 jusqu'au verset 10. Il rappelle donc l'histoire du peuple d'Israël pour souligner précisément cette vérité. C'est que le partage de multiples privilège extérieur ne garantit pas l'approbation de Dieu et ne préserve pas contre le jugement de Dieu. C'est ce qu'il dit ici, en substance, si vous regardez les 10 premiers versets. Il dit ici, « Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés à Moïse dans la mer, qu'ils ont tous mangé un aliment spirituel. » Il parle d'une liste de privilèges qu'ils ont eus. Et il dit, il établit un contraste fort, regardez au verset 5, il dit, « Mais la plupart ne furent point, quoi, agréables à Dieu. » Ce n'est pas parce qu'on participe, d'accord, régulièrement à tout un tas de privilèges, qu'on est passé par des expériences, etc., que l'on est forcément agréable à Dieu. Et donc il dit, il ne faut pas croire, il les alerte sur le danger de s'envelopper un peu d'une fausse sécurité, qui consiste à croire que la participation à des ordonnances, fût-elle le baptême et la Sainte Cène, garantit l'approbation de Dieu. Il y a plus que cela. Il faut bien sûr participer, mais il y a plus que cela. On peut participer assidûment au culte chrétien et être quand même idolâtre. Et donc, c'est le point qu'il cherche, je crois, à établir avec l'exemple du peuple Israël. Et le deuxième axe, et c'est celui qui va nous intéresser, c'est qu'il dit que la participation à des rites extérieurs, ici, implique une communion intérieure. Il dit que la participation à des rites extérieurs, expression souvent d'une communion que l'on développe à l'intérieur. Alors, il le fait ici pour dire aux Corinthiens, fuyez l'idolâtrie, mais pour leur faire comprendre le risque qu'il y a de communion avec les démons à travers ce qu'ils font, même s'ils pensent simplement partager un repas, il dit, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons, parce que ce qu'on sacrifie dans ces manifestations, c'est à des démons qu'on le sacrifie. Et donc, sans le savoir, vous êtes en train de vous associer avec la réalité spirituelle qu'il y a derrière ce qui est fait. Les idoles n'existent pas. D'accord, on est d'accord. Mais les démons, eux, ils sont bien réels, invisibles, et ils existent. Et c'est à eux que l'on sacrifie. Et ce faisant, participant à ces choses, vous vous associez et vous risquez d'être en communion avec les démons. Et pour leur montrer l'importance de cela, il parle de la scène, si vous voulez. Donc la scène est amenée ici comme un exemple, hein, pour montrer le risque qu'il y a. Il va montrer en fait qu'il y a une vérité qui vous échappe, c'est que lorsque l'on participe à la scène, on exprime une communion avec le corps de Christ et avec le sang de Christ. Et on exprime aussi une communion qu'on a les uns avec les autres, une unité. Et donc la scène, dit-il, et c'est ça que je vais retenir ce matin, on ne va pas développer l'aspect de l'idolâtrie elle-même, mais la scène, dit-il, c'est un repas de communion et d'unité des croyants entre eux. Donc le titre de notre message ce matin, c'est « La scène, repas de communion et d'unité ». La première chose que l'on souligne, c'est que la participation à la table du Seigneur est l'expression d'une communion spirituelle avec le sang de Christ et le corps de Christ. C'est ce que le texte dit. La coupe, regardez au verset 16, la coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ? Et donc quand l'apôtre Paul parle de cette coupe, hein, les spécialistes disent qu'il parle lors du repas pascal des Juifs, eh bien la troisième coupe qu'il faisait passer à la fin du repas, eh bien, il rendait grâce pour cette coupe, et comme on voit Jésus le faire dans les évangiles, hein, quand il a institué la scène, et donc cette coupe, il appelle ça la coupe de bénédiction, c'est parce que c'est pour elle que nous rendons grâce à Dieu. Hein. Jésus a dit, c'est la coupe de la nouvelle alliance à mon sang, et les croyants, et Jésus lui-même, il a rendu grâce pour cela, et les croyants rendent grâce pour cela. L'apôtre Paul le souligne dans 1 Corinthiens chapitre 11, hein, après avoir rendu grâce, et donc c'est une coupe de bénédiction pour laquelle on bénit, on rend grâce, on remercie Dieu. C'est une coupe de bénédiction pour nous, on pourrait dire dans le sens où nous sommes bénis par ce que cette coupe représente. D'accord? Donc pour Jésus, ça a été la coupe de la malédiction, il dit la coupe de la colère de Dieu, il a bu jusqu'à la lie, hein. Il avait dit dans le jardin, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, mais pour nous elle est la coupe, le sacrifice qu'il a accompli à la croix du calvaire est la coupe de la bénédiction. Nous sommes protégés de cette malédiction, du jugement, de la condamnation qui est réservée à ceux qui ne connaissent pas Dieu. C'est ça que la Bible dit, hein. Quand Moïse dit au peuple d'Israël dans Exode, en parlant de la Pâque, voilà comment il fallait, on a vu ça la dernière fois, comment il fallait la célébrer. Quand les enfants poseront la question, qu'est-ce qu'il faudra leur dire? Il faudra leur parler de Dieu qui est... On fait ça en souvenir du fait que Dieu est passé par... C'est ça la Pâque, hein? Il est passé par dessus, il est passé outre. Il a protégé le peuple, il a épargné le peuple. Et puis, donc, c'est ça la bénédiction, il les a bénis. Et au lieu de les détruire, il les a sauvés, il les a sortis d'Égypte. De même, Christ, lui, il a subi la colère, on a chanté tout à l'heure, du Père. Il a subi le jugement, le châtiment que méritait notre péché, afin que nous soyons épargnés, afin que ceux qui manifestent la foi en Jésus-Christ soient épargnés. Donc c'est la coupe de bénédiction. L'apôtre Paul dit, nous bénissons Dieu pour cela. Il dit, eh bien, cette coupe, elle exprime la communion au sang de Christ. De même que le pain que nous rompons exprime la communion au corps de Christ. Et donc, il dit cela en posant deux questions. Il dit, n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Cela amène une seule réponse évidente. Oui, elle l'est. Il dit, le pain que nous rompons, n'est-il pas la communion au corps de Christ? Cela amène, bien sûr, une seule réponse évidente. Oui, il l'est. Donc, il y a, dit-il, une réalité spirituelle derrière le geste, derrière le fait de prendre la coupe et de boire, derrière le fait de prendre le pain et de le rompre et de le manger, il y a une réalité spirituelle en jeu ici. Dans Galates, par exemple, chapitre 2, versets 7 et 9, je vous lis, l'apôtre Paul montre quand il est allé à Jérusalem, comment il a rencontré Céphas et les autres apôtres pour exposer son évangile qu'il prêchait. Et il dit ceci, il dit, « Au contraire, voyant que l'évangile m'avait été confié pour les incirconcis comme pour Pierre aux circoncis, car celui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis a aussi fait de moi l'apôtre des païens, et ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée, Jacques, Céphas et Jean, dit-il, qui sont regardés donc à Jérusalem comme les colonnes, me donnèrent à moi et à Barnabas la main d'association, afin que nous allassions, dit-il, nous vers les païens et eux vers les circoncis. » Le fait de donner la main d'association, c'est un geste, n'est-ce pas? La main, c'est une main physique. Hein, c'est pas qu'il y avait quelque chose de spécial dans la main de Céphas et de Jacques. Mais c'est un geste derrière lequel il y a une grande signification. Il y a l'approbation de ce que Paul prêchait et la reconnaissance de Paul en tant qu'apôtre. Et donc, vous voyez, c'est un petit peu, c'est la même chose que l'on a ici, hein. Le repas de Christ, la table du Seigneur est avec des éléments. C'est pas dans l'élément matériel qu'il faut chercher quelque chose, mais dans la signification que cela contient quand nous le prenons. Et ce que Paul dit, il dit, lorsque l'on participe à la table du Seigneur, eh bien, on exprime la participation et l'expression de la communion avec ce que les éléments de cette table représentent. De même que la poignée de main avait une signification, cette poignée de main atteste qu'il y a une communion dans ce ministère entre Paul et les autres apôtres, eh bien, le fait de participer à cette table atteste qu'il y a une communion des croyants avec ce que cette table représente. Et les chrétiens, quand ils participent, ils disent que nous avons en commun ces choses. Quelles sont ces choses? Le sang du Christ et le corps du Christ. Jésus-Christ est celui qui est en commun, celui que nous partageons ici. Donc la communion au sang de Christ, il participe à son sang. L'Écriture nous enseigne que nous sommes lavés par le sang de Christ. On a chanté beaucoup de cantiques aujourd'hui qui avaient référence au sang de Christ, mais il y a beaucoup de textes dans la parole de Dieu qui nous dit tout ce que nous avons par le sang de Christ, racheté par le sang de Christ en Éphésiens, justifié par le sang de Christ en Romains chapitre 5 verset 9, sanctifié par le propre sang de Jésus-Christ en Hébreux chapitre 13. Nous sommes rachetés pour Dieu par son sang, Apocalypse. Nous avons été rapprochés par le sang de Jésus-Christ, n'est-ce pas, en Éphésiens 2 13. Son sang nous purifie de tout péché, nous avons lu ça ce matin. Et par son sang, nous avons une pleine liberté pour entrer dans le lieu saint. Par le sang de Christ, la Bible dit que Dieu s'est acquis l'Église. On pourrait continuer ainsi. Et donc, quand nous participons à la table, nous disons toutes ces choses. Et tout, c'est-à-dire que tous les bénéfices qui sont compris dans l'œuvre de Christ, dans le sang de Christ qui a été versé, dans son corps qui a été rompu, deviennent bénéfices du croyant. Et l'apôtre Paul montre cela. Par exemple, avec l'illustration qu'il donne au verset 18, il dit « Voyez les Israélites selon la chair, ceux qui mangent les victimes ne sont-ils pas en communion avec l'autel, avec ce qu'il y a ?» Ce n'est pas avec le bois de l'autel qu'ils sont en communion, d'accord ? Ils sont en communion avec ce qui se passe sur l'autel et ce que cela représente. Et si vous lisez Lévitique ou Deutéronome, vous allez voir ainsi qu'il devait sacrifier et ensuite manger. Hein, tout le monde, les sacrificateurs mangeaient, mais le peuple aussi, les personnes qui sacrifiaient, mangeaient aussi de l'animal qui avait été sacrifié. Hein. Et c'était une participation. Paul dit, ils sont en train de montrer qu'ils ont ces choses en commun, que le pardon qui est acquis, l'expiation qui est faite par ce sacrifice, leur est attribué. Et c'est la même chose que fait le chrétien quand il participe à la table du Seigneur. Il dit par la foi que ces choses sont miennes. Mieux que ça, il dit que ces choses sont nôtres. Parce qu'ils le font ensemble. D'accord. Ils disent ensemble que nous avons, tous les gens qui regardent, nous avons en commun le sacrifice de Jésus-Christ. Nous sommes en communion avec tous les bénéfices. Nous sommes au bénéfice avec tout ce que ce sang, cette expiation apporte, tout ce que ce corps brisé apporte. Nous avons toutes ces choses. Ces choses sont nôtres par la foi et par, bien sûr, l'Esprit de Dieu qui agit en nous. Et c'est important de considérer ces choses. Ce n'est pas une communion avec les molécules du sang ou avec la chair biologique dont il est question ici. C'est une communion avec tout ce que cela représente. Et c'est important pour nous donc de méditer sur ce qu'est le sang de Christ. Qu'est-ce que cela implique dans notre vie? Qu'est-ce que le corps rompu de Christ implique pour nous? Selon ce que la parole dit ici. Donc il est important pour nous de considérer toutes ces choses. Vous qui autrefois, disait l'apôtre Paul, étiez étrangers et ennemis quant à vos entendements, dans les mauvaises œuvres, il vous a toutefois maintenant réconciliés dans le corps de sa chair par la mort. Donc il n'y a pas de réconciliation en dehors du sacrifice de Jésus-Christ accompli à la croix du Calvaire. Nous sommes réconciliés avec Dieu par le sacrifice, par le fait que le sang de Christ a été versé, par le fait que son corps a été brisé. Et donc Paul souligne clairement à ses Corinthiens que la participation à la table du Seigneur est l'expression vraiment de notre communion, le fait que nous avons en commun tous les bénéfices qui sont donnés par Dieu dans la personne de Jésus-Christ, dans son œuvre, sa mort et sa résurrection. Deuxième chose que je voudrais souligner ici, c'est que la participation aussi à la table du Seigneur est l'expression de l'unité des croyants les uns aux autres. Puisqu'il y a, verset 17, un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. Il est assez évident, je pense pour nous, que ce verset met l'accent sur l'unité, la communion fraternelle impliquée par la participation des croyants à la table du Seigneur. Il y a dans ce verset, je crois, reconnaissance de la diversité. Parce qu'il dit nous qui sommes plusieurs. Mais pour mieux mettre l'accent sur l'unité. Nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps. Ce qui est important de retenir ici, c'est que nous formons un seul corps. C'est ce que dit le texte ici. Comment l'apôtre Paul le montre, il dit que parce qu'il y a un seul pain, et il dit, nous participons tous à un même pain. Donc il est en train de dire que ici, les chrétiens, là, ils rompent le pain, un seul pain. Donc ce qu'ils mangent viennent d'une seule entité. Et cela implique qu'ils doivent saisir qu'eux aussi font partie d'un même et d'un seul corps. Donc à la table du Seigneur, ce n'est pas la diversité qui est célébrée. Ce n'est pas regarder comme, voilà, il y a un tel, puis un autre, puis un autre, puis un autre. Non, mais c'est l'unité qui est célébrée ici. Il y a un seul pain et tous participent au même pain. Donc l'Évangile, bien sûr, ne nie pas que nous sommes différents. Il le reconnaît, il l'accepte, mais il n'en fait pas un objectif. Le point de Paul, vraiment, n'est pas d'insister sur cela, mais c'est de montrer aux croyants combien c'est important. Le repas est un repas communautaire dans lequel les croyants expriment qu'ils ont en commun tous les bénéfices du sang du Christ qui a été versé, du corps du Christ qui a été brisé, mais où ils expriment aussi qu'ils sont unis par Jésus-Christ, ils sont unis les uns aux autres. Et c'est comme un seul corps qu'ils s'approchent de cette table. Ils témoignent, la participation à la table témoigne de cette unité-là en Jésus-Christ. Et l'apôtre Paul dira dans cette même lettre, aux Corinthiens, dont la division était quelque chose de chronique chez eux, rappelez-vous. Il y avait des partis dans l'Église, moi je suis de Paul, et moi je suis d'Apollos, moi de Céphas, et puis moi de Jésus-Christ. Et l'apôtre Paul va mettre le doigt sur les divisions qui existent. Et il dira, car comme le corps est un, et il y a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. C'est intéressant de voir ça. Il dit, notre diversité est une chose, juif ou grec. Notre diversité sociale est une chose, libre ou esclave. Il dit, mais quelles que soient ces choses, ce qui est important à retenir, c'est que nous avons tous été baptisés pour former un seul corps. Pas pour en former plusieurs, pour former un seul corps. Pas pour former un corps grec, un corps juif, un corps d'esclave, un corps de libre. Non, pour former un seul corps, dit-il. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Un seul corps, un seul esprit. Et donc on peut relever que lors de l'institution de la scène, Jésus s'adresse à ses disciples réunis. Il ne s'adresse pas à Pierre pour lui parler de la scène. Il ne s'adresse pas à Jacques pour lui parler de la scène. Ses disciples sont réunis dans la chambre. Et c'est à ce moment-là qu'il institue la scène. Il dit, prenez. Il dit, prends, Pierre, mange. Il dit, prenez, mangez. Prenez, buvez. C'est quelque chose de collectif, que l'on fait en commun. Et donc la participation à la table du Seigneur, c'est un geste communautaire. Nulle part dans la Bible vous trouvez que c'est quelque chose d'individuel. Et donc quand on s'approche de la table du Seigneur, c'est pas moi je vais pour avoir ma communion avec Christ. Ça n'existe pas dans l'Écriture, nulle part. Actes chapitre 2 où on voit les premiers chrétiens prendre la scène, le texte nous dit ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple et ils rompaient le pain dans les maisons. C'est intéressant de voir ça. Dans Actes chapitre 20, il est dit ceci. Le premier jour de la semaine, Actes chapitre 20, verset 7, le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. C'est une manière de dire qu'on prend la table du Seigneur, qu'on participe à la Sainte-Seine. Réunis pour prendre le pain. D'accord. Donc, il n'y a pas dans l'Écriture l'idée d'une participation solitaire à la table du Seigneur. On peut noter dans 1 Corinthiens que Paul parle de la scène aussi au chapitre 11. Là, on est au chapitre 10, mais au chapitre 11, il en parle. Mais dans quel contexte? Est-ce que vous vous souvenez? Dans le contexte de la division. Si vous regardez rapidement, tournez là une page, ici, et à partir du verset 17, regardez ce qu'il dit. Il dit ici, en donnant cet avertissement, je ne vous loue point, 1 Corinthiens 11, verset 17, c'est que vous vous assemblez, non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Et d'abord, j'apprends que lorsque vous vous réunissez en assemblée, il y a parmi vous des divisions. Voilà à quelle église l'écrit. Alors, je saute quelques paragraphes. Verset 20, il dit, donc, lorsque vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il dit, parce que vous êtes divisés. Et c'est là c'est dans ce contexte-là qu'il va donner encore un enseignement sur la Sainte-Seine à partir du verset 23 ici. Il dit pourquoi ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur. Verset 21. Car quand on se met à table, chacun. Voyez ici. C'est pas tous, c'est chacun. Individuellement. Il parle de l'individualisme des Corinthiens. Chacun commence par prendre son propre repas. Et l'un a faim, tandis que l'autre est ivre. Voilà la division qui existe lorsqu'il s'approche pour, soi-disant, célébrer la table du Seigneur. Et donc, Paul va enseigner ce qu'il a reçu du Seigneur. Chapitre 11, verset 23, jusqu'à la fin du chapitre. Et notez comment il termine au verset 33. Ainsi donc, mes frères, lorsque vous vous réunissez pour le repas, attendez-vous les uns les autres. C'est un repas communautaire. Il dit, vous vous réunissez pour le repas, attendez-vous. Il faut que la participation à ce repas exprime ce que ce repas est vraiment. La communion des croyants. On s'attend. On est unis. Donc la scène n'est pas une ordonnance pour soi, okay, que l'on peut prendre dans son petit coin secret avec le Seigneur. J'ai pas pu aller à l'église aujourd'hui, donc je me fais ma petite scène dans la cuisine, et puis je prends. C'est pas possible. D'accord. C'est l'expression de la communion de l'église tout entière, quand elle est réunie. Elle nécessite donc la réunion de l'Église. La scène est l'expression par excellence, donc où se montre et se vit la communion des croyants avec Christ et les uns avec les autres. Ce n'est pas le lieu où on voit la diversité, c'est le lieu où on voit l'unité. Ça, c'est important. Et Galates chapitre 3, regardez Galates chapitre 3, verset 26, nous lisons « Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ, vous tous qui avez été baptisés en Christ. Vous êtes tous fils de Dieu, tous qui avez été baptisés en Christ, ceux qui sont croyants, qui ont revêtu Christ, qui ont placé leur confiance en Jésus-Christ, qui sont sauvés. Il dit, vous avez revêtu Christ. Et verset 28, il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Ce n'est pas un déni de la réalité, hein. Il y a toujours des hommes et des femmes. Parce qu'il y en a qui utilisent ça pour sombrer dans leur dépravation, hein. Ce passage, en disant qu'il n'y a plus ni homme ni femme. Il y a toujours des hommes et des femmes. Il y a toujours des juifs et des grecs. Il y a toujours des martiniquais et des guadeloupéens. Je prends les peuples les plus nombreux de la terre, hein. D'accord? Des tamouls, des français, etc. Il y a toujours cela. Mais ce que l'apôtre Paul dit ici, c'est que en Jésus-Christ, l'important n'est pas ces frontières-là. Il dit que ce qui est important, c'est qu'il y a maintenant, vous êtes tous un en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc de la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. Et ce que l'on exprime quand on vient à la table, c'est pas que l'on est martiniquais ou que l'on est godin. Non, on est un en Jésus-Christ. Et quelqu'un a dit que la scène indique qu'entre les hommes et les femmes qui y participent, existe un lien combien plus fort que celui de leur naissance, de leur amitié humaine, de leur race et de leur nation. C'est important pour nous de souligner ça. C'est pas notre ethnie qui est important. C'est vraiment le fait d'être en Christ. Et c'est pour cela que, quel que soit le lieu où on peut se rencontrer sur la terre, rencontre un enfant de Dieu, on sait que l'on est son frère ou sa sœur. Et nous faisons partie du même corps. S'il souffre, je souffre aussi. Parce que nous faisons partie du même corps. Alors cela nous aide à considérer vraiment ces choses, l'importance de cette unité quand nous nous approchons de la table du Seigneur. Paul souligne qu'il y a un seul pain. Et ce seul pain, c'est ce seul pain qui est partagé. Et le partage de ce seul pain par plusieurs personnes indique qu'ils forment un seul corps. C'est la vérité qu'il enseigne ici. Et je vous lis encore ce commentaire de quelqu'un. Il dit, la multitude de ceux qui participent au repas du Seigneur participent au même pain, car tous reçoivent du même Seigneur un signe du même sacrifice. Il n'y a qu'un sacrifice. Il n'y a qu'un signe, qu'un Seigneur, qu'un Esprit, qu'un seul Esprit. Et les chrétiens ne sont qu'un seul corps. Et c'est la célébration de ce corps-là qui doit triompher toujours dans l'Église. Et non la célébration de ce que je pense, mes opinions, de ma diversité, de mon origine, de ma langue ou d'autres choses. C'est vraiment l'unité de l'Église. D'où que nous venions. Et c'est le témoignage que Dieu veut donner au monde de cette capacité à rendre en communion des personnes qui ne jamais autrement ne se seraient rencontrées, ne se seraient même aimées. D'accord? Déjà, on a du mal à s'aimer quand on est de la même tribu, hein, des fois. Et donc, l'Évangile met toutes ces personnes ensemble et elles sont dans une union, un amour, une unité qui témoigne de la puissance du sacrifice de Jésus-Christ à la croix du Calvaire. Et puis, je voudrais rapidement dire aussi, troisièmement, que la participation à la table du Seigneur est l'expression d'une communion exclusive. Ici, Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 10 et au verset 21, il dit, vous ne pouvez, verset 20, je dis que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Voulons-nous provoquer la jalousie du Seigneur, sommes-nous plus forts que lui? Il ne dit pas que vous ne devez pas le faire. Il ne dit pas que vous ne devez pas à la fois participer à la table du Seigneur et puis à la fois participer à la table des démons. Il ne dit pas ce n'est pas bien de faire comme ça. Il dit vous ne pouvez pas le faire. Il y a une incompatibilité. C'est important de réfléchir à ça. C'est l'un ou l'autre. C'est comme quand Jésus disait vous ne pouvez servir, nul ne peut servir deux maîtres. Dieu ou maman, il dit, c'est pas qu'on peut s'arranger. Non, on peut pas. C'est ou on a le cœur tout entier à l'un, ou on a le cœur tout entier à l'autre. Parce que Jésus réclame le cœur tout entier, les démons réclament le cœur tout entier aussi. Donc je peux pas faire les deux. Et celui qui fait les deux doit se poser forcément des questions. Il doit forcément se poser des questions. Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons parce que la participation à la table du Seigneur réclame l'exclusivité, notre être tout entier. C'est l'un ou c'est l'autre. Et donc, la participation à l'un doit me pousser à abandonner l'autre. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, verset 14, « Fuyez donc l'idolâtrie. » La participation à la table du Seigneur doit me pousser à fuir l'idolâtrie. Quand je pense à ça, quand je dis que je suis en communion avec ce qu'exprime cette table, avec la mort de Christ, sa résurrection, le sacrifice qui a été accompli, cela doit avoir comme implication que je fuis l'idolâtrie. Quiconque invoque le nom du Seigneur, dit l'apôtre Paul à Timothée, qu'il s'éloigne du mal, qu'il s'éloigne de l'iniquité. D'accord ? Donc on ne peut pas, si on dit quelque chose dans un sens, il y a forcément une implication dans l'autre sens. C'est ce que ce passage veut dire. Et puis donc je dirais, pour terminer, chers frères et sœurs, que notre texte ne traite pas forcément de comment participer à la scène, on est d'accord ? Mais il traite de la réalité qui est exprimée lorsque l'on s'approche de la table du Seigneur. Et donc, on note que la communion avec le corps et le sang de Christ est une exhortation à la sainteté quotidienne. Paul montre ici que la réalité spirituelle de la communion avec Christ qui est exprimée lors de la scène doit avoir un impact dans la vie de tous les jours. Quand il dit « Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur, à la table du dimanche », il dit « Vous ne pouvez pas faire ça le dimanche et puis le lundi être au temple d'Aphrodite. » C'est ce qu'il est en train de dire. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de distinction de jour pour le croyant. Tous les jours sont au Seigneur. Et ce que l'on fait dans le dimanche implique aussi ce que l'on fera le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi. Okay? C'est ça que cela veut dire. Donc la vie du chrétien ne se sépare pas entre dimanche et semaine. Et donc la réflexion du chrétien doit se situer toujours au niveau spirituel des choses, et pas seulement au niveau matériel, physique, visible ou sentimental. Les implications spirituelles de ce que nous faisons doivent nous préoccuper. On se contente parfois trop souvent de dire « mais ça c'est pas interdit ». Ça, c'est pas je peux faire ça. Non, on doit réfléchir. L'apôtre Paul dit, je parle à des hommes intelligents, jugez-en vous-même. C'est-à-dire, et il dit, ma participation à la table du Seigneur implique des réalités spirituelles. Maintenant, est-ce que cela concorde avec ce que je fais le reste de la semaine? Quand je participe aux tables, dans les temples de démons. Et pour nous, la question se pose aussi, n'est-ce pas? Quelles sont les implications spirituelles de ce que je fais tout au long de mes journées, de cette musique que j'écoute à longueur de journée, de ces feuilletons que je regarde? Derrière la neutralité apparente, chers frères et sœurs, des choses peut se cacher une réalité spirituelle mauvaise avec laquelle je risque d'être en communion. C'est Ésaïe qui disait qu'on finit par ressembler aux idoles que nous adorons. On ressemble aux idoles que nous adorons, toujours. Toujours. Alors faisons attention. Notre participation à la table du Seigneur, notre communion avec Christ, devrait donc exclure toute autre association qui est contraire à Christ ou qui le déshonore. Et comme l'a fait remarquer quelqu'un, il dit, si nous prenons les signes le jour du Seigneur, c'est-à-dire la table le dimanche, nous ne pouvons pas nous associer à ce qui déshonore Christ pendant le reste de la semaine. Vous ne pouvez, dit l'apôtre Paul, boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Que chacun donc s'examine lui-même. Deuxième vérité que je soulignais, la communion avec le corps de Christ et le sang de Christ est une exhortation à l'amour les uns envers les autres. On a parlé de cet aspect communautaire et d'unité qui existe. La division caractérisait l'église de Corinthe, n'est-ce pas ? Et par deux fois, Paul évoque la Sainte Cène pour corriger cette division. Là, dans le chapitre 10, c'était la division entre ceux qui estiment qu'ils peuvent exercer leur liberté en mangeant de la viande sacrifiée aux idoles et ceux qui
exprimait que c'était un péché. Et l'Église était divisée à cause de cela. Et en 1 Corinthiens chapitre 11, eh bien, c'est-à-dire que chacun mangeait, chacun pour soi, tant pis pour les autres, les riches avaient beaucoup, les pauvres n'avaient rien, etc. Et puis ils appelaient ça le repas du Seigneur. Paul dit non, 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 non. Et par deux fois, il utilise la scène pour corriger ce manque d'amour dans l'Église. Et donc la participation à la table du Seigneur est l'expression de l'unité des croyants en Christ, de leur communion les uns avec les autres. Et par conséquent, le croyant devrait faire tout ce qui est en son pouvoir pour que l'amour triomphe dans ses relations les uns avec les autres ici. Et Jean Calvin dit ceci dans l'Institution de la vie chrétienne, en parlant de la scène, il dit « Aucun des frères ne peut être méprisé, rejeté ou dépouillé, blessé ou offensé de quelque manière, sans que de la même manière, nous ne blessions, méprisions ou offensions en lui Jésus-Christ. Et nous ne l'atteignons par notre tort. » Il dit blesser, mépriser les autres, etc. Il dit c'est le faire à Christ dans le frère aussi. Et il ajoute ceci, il dit de même nous ne pouvons nous disputer avec nos frères et nous diviser sans susciter discorde et division entre Jésus-Christ et nous. Pourtant, de considérer ça. On ne peut pas dire que je suis en paix avec Christ, les autres, non. Si nous maintenons des divisions entre nous, il dit, entre un frère et un autre, il dit, je maintiens aussi une division entre moi et Christ. Ce que la parole dit, hein. Il dit, celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? C'est exactement la même vérité qui est soulignée ici. Et donc, que chacun s'examine aussi dans ce sens. Quand nous approchons de la table, nous disons, c'est l'expression que nous sommes en communion les uns avec les autres. Et nous disons, oui, c'est mon frère et je l'aime. Et le monde doit savoir que je l'aime. S'il me fait du tort, je lui pardonne. S'il faut que j'aille le voir pour demander pardon, je vais le voir pour demander pardon. C'est ce que j'exprime. C'est pas nous qui décidons, c'est ce que l'Écriture dit, hein. C'est un repas communautaire. Donc, peu importe ce que l'on pense, c'est ce que cela exprime. Et donc, c'est à nous de savoir si c'est une réalité dans notre propre vie. Et demander pardon au Seigneur, régler les choses de manière à ne pas entacher le repas du Seigneur. C'est le repas du Seigneur, c'est pas le nôtre. Et c'est important de considérer ces choses. Et dernièrement, la communion avec le corps et le sang de Christ implique forcément d'être un chrétien véritable. Donc tout ce que nous disons, c'est la chose la plus importante, certainement ici, c'est la table du Seigneur pour ceux qui ont Christ, la mort de Christ, sa résurrection comme partage. Donc qui sont des enfants de Dieu qui ont placé leur confiance en Jésus-Christ, qui marchent en obéissance avec Jésus-Christ, qui se repentent quand ils pêchent, qui ne laissent pas traîner les choses dans leur vie, qui ont une véritable vie en Christ. C'est important de souligner cela. La communion avec le corps et le sang de Christ implique d'être à Christ, tout simplement. Et donc, chers frères et sœurs, que le Seigneur nous guide et nous conduise dans ce temps qui vient. Nous voulons nous rappeler de ce que Christ a fait pour nous, bien sûr, mais nous voulons aussi avoir présent à l'esprit que nous exprimons ici une communion et une unité qui est chère au Seigneur Jésus-Christ. L'apôtre Paul dit que c'est pour former un seul corps que nous avons été, par Christ, baptisés dans un seul esprit. Et que ces pensées soient dans nos cœurs quand nous nous approchons de la table du Seigneur. Prions. Nous te remercions, Seigneur notre Dieu, pour ta parole qui est la vérité. Et nous te prions que tu nous donnes encore de méditer ces choses, d'abandonner nos conceptions parfois erronées que nous pouvons avoir sur sur l'Église ou sur autre chose et d'épouser pleinement ce que ta parole nous enseigne. Seigneur, nous ne pouvons pas par nous-mêmes nous aimer les uns les autres, ni même t'aimer. Il faut que toi, tu agisses en nos cœurs. Et nous te prions que par ton esprit, tu agisses dans nos cœurs, que tu ouvres nos yeux sur notre imperfection, sur notre manque d'amour, sur notre refus de pardonner. Seigneur, que tu nous donnes des cœurs soumis qui se repentent, qui se préparent pour ce temps si merveilleux auquel tu nous invites, de partager ensemble ton sang, ton corps qui a été rompu pour nous, de partager ensemble ces éléments qui sont l'expression de ton amour pour nous, l'expression de la communion que nous avons avec toi et l'expression de l'unité qui existe dans ton corps, entre tes enfants, par ton esprit que tu fais régner en eux. Conduis-nous, nous te prions, pour l'honneur de ton nom. Amen. Je vous invite à...